On accueille Rachel maintenant au 3921. Bonsoir Rachel.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Merci. Rachel. D'où nous appelez-vous Rachel ?
Alors, moi je suis du nord de la France, Armentières.
Armentières, d'accord. Vous êtes tout près de la Belgique en fait ?
Tout à fait. C'est juste de l'autre côté de la rue.
Juste de l'autre côté de la rue. Ça, c'est formidable. Voilà. Ça veut dire que vous passez tous les jours de la Belgique à la France, de la France à la Belgique, de la Belgique
à
la France.
Tout à fait.
Ça, c'est super. Alors, Rachel, qu'est-ce qui vous amène ? Dites-moi.
Alors, voilà. Moi, aujourd'hui, d'abord, je voulais vous remercier de me donner la parole. Parce que, comme beaucoup des auditeurs de la Libre Antenne que j'écoute tous les soirs, je suis une grande amoureuse des animaux. Des chiens. J'ai été pendant très longtemps famille d'accueil pour une association de protection animale. Et maintenant, j'ai des perroquets en plus de mes chiens. Et aujourd'hui même, en fin de journée, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale. Une loi portée par le député d'Ombreval qui s'appelle la loi contre la maltraitance animale. Et pour le renforcement du lien entre l'animal et l'homme. Donc c'est une loi donc qui porte son nom, qui veut améliorer le sort des animaux. Et tout le monde ne peut être que d'accord avec le fait d'améliorer la condition animale.
Ne peut être d'accord qu'avec ce bon sentiment. Hein, de vouloir améliorer la vie des animaux, mais je sens qu'il y a un mais à tout ça.
Voilà. Alors, il s'avère que dans cette loi, il y a l'article 4 qui stipule que certains animaux vont être soumis à une liste. C'est-à-dire, le texte dit très précisément que parmi les animaux d'espèces non domestiques, seuls ceux relevant d'espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministère de l'Environnement pourront être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d'élevage d'agrément. Donc, en termes plus clairs, on appelle ça une liste positive, et c'est-à-dire que pour tous les animaux qui sont non domestiques, donc savoir que les animaux domestiques, ce sont le chien, le chat, le cheval. En fait, c'est toutes les espèces qui ont été tellement modifiées par l'homme, par la sélection humaine, que même leur ADN est différent de leur ancêtre sauvage. Tous les animaux qui n'ont pas subi cette modification sont appelés animaux sauvages ou non domestiques. Et c'est ces animaux qui vont être listés. Et ça va dire, ces animaux-là, vous avez le droit d'en détenir en tant que particulier. Et ces autres animaux-là, vous n'aurez pas le droit de les détenir.
Alors, par exemple,
un exemple tout bête. Le poisson rouge est un animal domestique.
Oui.
Par contre, les aquariums de poissons africains, les aquariums de poissons d'eau de mer.
Avec tous ces poissons exotiques là, qu'on vend
partout. Très beaux, très colorés, ceux qu'on voit dans les récifs de coraux, sont des animaux sauvages non domestiques.
Ce qu'il faut préciser quand même, Rachel, d'emblée, pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien votre démarche, c'est que ces jolis petits poissons que l'on voit dans ces aquariums, ici et là, partout en France et en Europe, sont nés en Europe. Ils n'ont pas été pêchés en Afrique le matin et ils sont le soir enfermés dans nos aquariums.
Non, mais ça, c'est important. Oui, c'est un point que je voulais aborder. C'est-à-dire qu'on les appelle aussi les naques. Ça recoupe aussi, par exemple, pratiquement tous les oiseaux qu'on peut trouver dans une maison, dire le jaco, le gris du Gabon, qui est connu par tout le monde, est un animal sauvage non domestique. Donc, ces animaux, il faut bien savoir que cet amendement est porté par des groupes animalistes, véganes, etc., qui sont contre la captivité.
Des gens qui sont réputés comme étant assez extrémistes.
Voilà. Tout à fait. Et on peut le dire, ils sont relativement extrémistes. Donc, ces groupes argumentent qu'actuellement, il n'y a pas de législation pour protéger ces animaux. et que donc ça ouvre la voie à du trafic et que à l'heure actuelle où on est à la sixième extinction animale, on n'a pas le droit de prendre des animaux dans la nature pour notre plaisir.
Ça, vous êtes d'accord avec ça ?
On est tout à fait d'accord. Alors, on est à 1000% d'accord. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que tous les animaux qui sont vendus en France, en Belgique, enfin, dans toute l'Europe, sont des animaux nés en captivité depuis 10, 20, 30 générations. Ils ne sont en aucun cas prélevés dans la nature pour venir agrémenter nos maisons.
Moi, j'en suis le premier témoin, puisque vous le savez, je suis propriétaire d'un petit caïque qui s'appelle Fluffy. Et je peux confirmer qu'il ne parlait pas du tout espagnol, mais bien français quand je l'ai acheté. Non, je rigole. Mais en tout cas, ce petit caïque, quand je l'ai acheté, avait un certificat de traçabilité et que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-arrière-grands-parents étaient nés en Belgique, justement, et que ce qu'il faut comprendre, en fait, je traduis un peu parce que vous êtes une spécialiste,
oui, tout à fait.
C'est que ces animaux, même s'ils ont encore, et je pense que les animalistes s'appuient, ils vont appuyer fortement là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire que ces animaux sont des animaux sauvages qui gardent certains instincts sauvages, peut-être moins développés parce que chez nous, ils affrontent moins de dangers. Mais, et on le voit, ce sont des petits animaux qui sont tout le temps sur le qui-vive, qui sont très malins et qui conservent une manière de se comporter qu'ils ont dans le sang, hein, dans leur centre nerveux.
Bien sûr,
c'est-à-dire qu'ils sont toujours, ils sont la proie hein, d'autres animaux. Donc ils gardent cet instinct sauvage. N'empêche que ces animaux, dès qu'ils naissent, sont habitués à l'homme, sont nourris par l'homme, sont amis avec l'homme et développent une vie pour la plupart heureuse. Donc, enfin, moi je le dis, mon caïque par exemple est en liberté tout le temps. Et donc, du coup, ça fait des oiseaux qui ont une vie comme un chat et un chien, ce qui équivaut à la même chose en fait.
Exactement. On n'a pas ces animaux-là pour faire beau, pour. Comme on dit, se la péter et dire « moi, j'ai pas un chien ou un chat, j'ai un perroquet, j'ai un serpent ». Non, il faut bien savoir que ces animaux sont détenus par des passionnés. On va aller chercher toutes les infos sur leur milieu, sur leur nourriture, sur tout ce qui va permettre de leur apporter la meilleure vie possible. Il y a des ratés. Des fois, on tombe à côté. Parfois, l'information n'est pas suffisante. Mais on est vraiment des passionnés qui voulons vraiment le bonheur de nos animaux. On les aime exactement comme les gens vont aimer leur chien ou leur chat. On fait toute notre vie autour de ces animaux. On fait d'énormes sacrifices. On ne part pas forcément en vacances. Enfin, y a tout un tas de choses. Si on le perd, malheureusement, on a vraiment la même souffrance que quelqu'un qui perd son chat ou qui perd son chien. C'est vraiment la même chose.
Mais bien évidemment. On va marquer une petite pause, Rachel, si vous le voulez bien. On laisse passer une pause publicitaire et puis on revient. À tout de suite.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Il est 23h15 sur Europe 1, vous êtes sur votre libre antenne et bien évidemment, vous pouvez continuer à composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, en n'oubliant pas que dès que vous êtes en ligne avec le disque d'accueil, vous appuyez sur le 1 et il vous parlerait directement à Julia ou à Florian. Pour l'instant, nous sommes avec Rachel qui évoque cette loi à venir sur la protection des animaux, hein, tout ça partant d'un bon sentiment. Mais comme dans toute loi, il faudrait que nos députés puissent avoir l'avis de personnes qui sont spécialisées ou spécialistes dans tout ça, c'est-à-dire nous hein, qui gardons des animaux autres que des chiens et des chats, parce qu'aujourd'hui, il y a... Et je trouve que c'est bien que vous évoquiez les poissons, Rachel, parce que ces pauvres poissons qui... Alors, pour le coup, encore plus que les perroquets ou les reptiles aussi, parce qu'il y a beaucoup de reptiles aujourd'hui hein, qui vont être, à mon avis, dans ce cas.
Énormément.
Beaucoup de gens imagine les oiseaux ou les reptiles comme étant plus sauvages, des animaux plus sauvages. Mais finalement, ils ne sont pas plus sauvages que ces petits poissons tropicaux,
qui naissent
en captivité. Que voudraient faire ces gens-là, en fait, si la loi passait? Ils voudraient relâcher tout le monde dans la nature?
Alors, le problème, c'est qu'ils avancent des propositions, mais qu'il n'y a rien de concret derrière. C'est-à-dire, la seule chose dont on est sûr, c'est que cette loi ne sera pas rétroactive. Donc, les animaux qui sont détenus actuellement ne seront pas saisis et arrachés à leurs propriétaires. Ça on le sait. C'est déjà une bonne chose. Mais ça interdira tout achat ultérieur d'animaux qui ne seront pas sur la liste. Alors, il faut bien savoir aussi qu'actuellement, la France a la réglementation, contrairement à ce que ces extrémistes avancent, a la réglementation la plus stricte d'Europe. Si vous voulez détenir des oiseaux très spéciaux ou en voie de très grande disparition, si vous voulez maintenir des reptiles potentiellement dangereux ou avec des besoins très très spécifiques, vous êtes obligé de passer un certificat de capacité qui va vous demander de faire des stages, qui va vous demander de prouver toutes vos connaissances, votre expérience. Vous allez passer devant une commission et si vous ne satisfaisez pas, c'est refusé. Et ensuite, vous devez présenter tout votre établissement, comment vous allez faire, le volume que vous accordez à chaque animal, etc., qui est contrôlé par les services des vétérinaires. Donc, on est vraiment sur une législation qui ne laisse pas passer grand-chose.
Oui.
Et il faut savoir que tous les animaux doivent être identifiés et traçables, comme vous l'expliquez, de façon à s'assurer qu'il n'y a pas de trafic derrière.
Est-ce que Rachel, vous qui êtes vraiment branchée sur la question, le trafic et donc le braconnage existent toujours. Est-ce qu'on a encore des... on affronte encore ces problématiques en Europe aujourd'hui?
Alors, en Europe, non.
Un petit peu quand même, sans doute, non?
Alors, on peut, malheureusement, le braconnage et le trafic...
On ne peut jamais éradiquer à 100%.
Toujours, on les éradiquera, ça ne sera jamais à 100%. Mais depuis qu'il y a de l'élevage en Europe... Les importations d'animaux sauvages sont réduites vraiment à peau de chagrin et elles sont beaucoup plus souvent destinées soit à des zoos ou à des associations qui étudient les animaux et qui ont besoin de sang neuf ou de choses comme ça. Mais pour le particulier, la personne lambda, c'est vraiment que de l'animal captif. Et ça, on veut vraiment que ça soit clair et que ça soit entendu. C'est que vous alliez dans une animalerie ou que vous alliez chez un éleveur, les animaux ne sont pas pris dans la nature.
Mais bien sûr que
on
non,
ne participe pas à l'extinction des animaux, et bien au contraire. Parce qu'il faut savoir, il y a un adage qui dit qu'on ne protège bien que ce qu'on connaît. Et c'est pour ça que les animaux étant détenus avec les humains, enfin détenus, maintenus, on a pu les observer, on a pu comprendre leur comportement, on a pu avoir des avancées extraordinaires en médecine vétérinaire. Si ces animaux étaient restés dans leur fin fond de leur nature, on n'aurait jamais fait ces avancées. Les gens qui ont des serpents, etc., font beaucoup de vulgarisation et vont à la rencontre des gens parce que le serpent, par exemple, fait peur. Et quand vous vous retrouvez en face d'un petit serpent dans la campagne française, beaucoup de gens vont avoir le réflexe de le tuer parce qu'ils ont peur.
Exactement.
Et voilà. Et ces gens font une formidable œuvre d'information pour faire connaître que ce n'est pas dangereux, que ce n'est pas mortel, que ce n'est pas tout ça. Pour les oiseaux que je connais mieux, il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que le fait que l'on ait des oiseaux en captivité nous a permis de sauver des espèces. Il y a eu très récemment la réintroduction du hara de Spix.
Exactement, au Costa Rica.
Les enfants, voilà, au Brésil.
Au Costa Rica aussi.
Oui. Ah d'accord.
Il n'y en avait plus.
Le hara de Spix avait complètement disparu dans la nature. Grâce à des éleveurs privés, à des particuliers, ils ont fait don de leurs animaux à une association allemande et ils ont multiplié les naissances. Et maintenant que ces oiseaux sont réacclimatés à la vie sauvage, ils vont pouvoir être remis en liberté, on va pouvoir de nouveau les voir. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il faut bien savoir que les eaux qui ont normalement un rôle de conservation n'ont pas toutes les espèces et n'ont pas forcément des espèces qui n'attirent pas beaucoup de monde. Il y a une petite sarcelle, c'est-à-dire qui est un petit canard qui a été sauvée parce qu'il n'y avait plus que, je crois, une trentaine d'exemplaires dans la nature. Elle a été sauvée parce que des particuliers avaient ces espèces et l'ont fait reproduire et on a pu la réintroduire. Il n'y en avait dans aucun zoo parce que ce n'est pas un animal très, très beau, très qui ne déplacerait pas les foules. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que si demain, on a 80% de ces animaux qui ne peuvent plus être détenus par des particuliers, on n'aura plus cette réserve génétique. Et s'il y a besoin de réintroduire les animaux, on ne pourra plus.
Parce que, bien évidemment, Rachel, vous parlez, et il y a quelques SMS qui vont dans le sens de cette loi, qui disent que c'est une bénédiction. Je vous lis le dernier. Bonsoir, cette loi est une bénédiction. Je suis choqué de voir que des personnes sont capables d'avoir des animaux sauvages chez eux s'ils ne sont pas pris dans la nature. Le problème aussi, c'est que ce sont les gens qui en font le commerce. Bon. Tout dépend, madame ou monsieur, vous qui nous écrivez, de quels animaux vous parlez. Si vous allez acheter sur le port de Marseille un python ou une tortue, il y a des possibilités que oui, cet animal ne soit pas traçable et qu'on vous le vende comme ça sous le manteau. Mais croyez que les magasins qui sont à Paris, je vous parle de ceux qui sont à Paris, qui vendent il y a certains magasins qui vendent des reptiles. Tous ces reptiles sont nés en France ou en Allemagne ou en Hollande et que ce sont des animaux au même titre que ce petit caïque dont je vous parlais tout à l'heure ce sont des animaux qui sont habitués à l'homme dès le début. Et puis parlons de tous ces passionnés d'animaux, parce que je sais, Rachel, que vous, ce ne sont pas vos oiseaux. Vous n'habitez pas.
J'habite chez mes oiseaux.
Voilà, vous habitez chez vos oiseaux parce que voilà, j'ai eu l'occasion de voir par la caméra aujourd'hui chez vous. Vous m'avez montré comment c'était chez vous. C'est assez incroyable parce que voilà, c'est une volière chez vous. Donc et je veux dire que vous êtes comme tout un tas de personnes qui sont vraiment passionnées par les animaux et qui en prennent.
Je pourrais même vous donner des exemples de gens qui font même bien pire que ça pour vraiment épanouir au maximum leurs animaux.
Si vous voulez, il faut bien comprendre aujourd'hui que ce que vous dites, cette loi, elle va pouvoir viser aussi des chevaux. Qu'il y a des chevaux.
Alors, attention, pas dans un premier temps. L'objectif clairement avoué qui a été dit dans une interview par le groupe extrémiste qui porte cet amendement, c'est qu'il voulait dans un premier temps limiter la détention des NAC, mais que leur objectif final était la fin de toute détention d'animaux pour le plaisir de l'humain. Donc ça veut dire qu'à terme, ça sera les chevaux qui seront visés parce qu'ils considèrent que l'équitation, c'est de la torture pour le cheval. C'est les chiens qui travaillent pour les gens.
Oui, les chiens d'aveugle. Les chiens d'aveugle.
C'est les chiens policiers, c'est les chiens de sauvetage parce qu'ils estiment que l'on exploite l'animal.
Vous savez, il y a toujours des gens malins. Et des gens très courageux d'ailleurs, parce que les SMS que je reçois, le dernier dit « ce n'est que du blabla et des mensonges, j'ai écouté des émissions très sérieuses et la maltraitance est là et les contrôles pas faits ». Et bien évidemment, si je dis que ça n'est pas courageux, c'est que ça n'est pas signé. Et donc pas traçable, si on veut faire une plaisanterie sur le… bien évidemment, on trouvera toujours de la maltraitance puisqu'on a de la maltraitance chez les humains. Chers amis, donc vous vous doutez bien que des abrutis qui maltraitent des enfants, des femmes, des groupes de personnes font la même chose avec les animaux. Globalement, il faut vous référer à votre entourage et les gens qui ont des chiens, des chats en premier. Et puis, si vous connaissez des gens qui ont d'autres animaux, voyez le comportement de ces gens avec leurs animaux et voyez si vous y décelez une maltraitance. Généralement, tous ces animaux sont très heureux. Bien évidemment, on doit répéter ce soir, mais vous l'avez fait, Rachel, il faut répéter et engager les gens à ne pas acheter d'animaux sous le manteau ou d'animaux
sous le manteau, voilà.
À un particulier qui n'a pas le carnet, enfin, comme on a pour
voilà,
n'importe
exactement.
Quel animal. Aujourd'hui, si on veut acheter un animal de compagnie, quel qu'il soit, eh bien, il faut l'acheter dans un endroit où on sait qu'on a affaire à des professionnels.
Alors, je dirais même qu'il faut l'acheter soit dans un magasin spécialisé, c'est-à-dire qu'une animalerie qui vous vend aussi bien des oiseaux qu'un poisson, que le sac de croquettes ou d'une litière, les gens ne sont pas formés. Si vous allez dans une animalerie qui ne vend que des reptiles ou qui ne vend que des oiseaux, vous aurez affaire à des gens qui vont pouvoir vous conseiller. Parce qu'il faut bien voir une chose, c'est que la maltraitance qu'on nous reproche vient à 99% d'un manque d'information. Et je ne dirais pas que c'est de la maltraitance, mais de la non-bientraitance. Par exemple, une chose tout à fait bête, c'est que les oiseaux sont des animaux grégaires, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui vivent en groupe. Et la solitude est une source de stress chez eux. Ça, on a pu s'en apercevoir en étudiant les animaux chez les gens, les animaux détenus chez des particuliers. Mais malheureusement, dans beaucoup de magasins, on ne vous dira pas qu'il faut un deuxième oiseau,
oui.
Parce qu'on aura peur de louper la vente.
Oui, oui, ça c'est vrai que ça voilà. Fait partie de la formation que ceux qui vendent des animaux doivent recevoir. On va marquer une nouvelle voilà. Pause, ma chère Rachel.
Oui.
Le trafic d'animaux rapporte plus que le trafic de drogue. C'est vraiment révoltant d'entendre ça.
Alors,
voilà.
C'est le troisième trafic.
Non, non, mais oui, c'est le troisième trafic. Mais alors, remettons les choses à leur place. C'est le trafic d'animaux en Asie. Et ce n'est pas ce trafic-là. Bien évidemment, quand on parle de trafic d'animaux qui rattrape le trafic de drogue, c'est le trafic concernant les peaux de serpent, concernant la poudre, vous savez, de tout un tas d'animaux pour le marché asiatique. C'est tout le braconnage qui est fait à destination du marché chinois, du marché aussi de la mode, hein, parce qu'il y a bien évidemment un marché au niveau des peaux de reptiles. Et ça n'est surtout pas ce dont on parle ce soir. Le trafic d'animaux de compagnie. Mais on va continuer, on marque une pause.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Il est 23h30 sur Europe et bien évidemment, lorsqu'il s'agit de la défense des animaux, la maltraitance des animaux, cela déchaîne et vous êtes nombreuses et nombreux à nous écrire au 739-21 comme Cécile, qui nous interpelle comme ça, hop hop hop. C'est la première fois tiens, qu'on nous fait un hop hop hop. Parfois, certains ont des animaux pour faire croire qu'ils sont humains, ils les maltraitent comme ils maltraitent les humains. Vous avez raison Cécile et je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Mamie Tam Tam nous dit bonsoir, quand on est passionné par les animaux, on va bénévolement s'occuper d'eux comme j'ai fait en République démocrate du Congo, auprès des bonobos, par exemple, qui sont menacés par les humains, justement. Vous avez raison, Mamie Tam Tam, il faut avoir les moyens hein, de se rendre, je pense que ça n'est pas à la portée de tout le monde d'aller défendre, s'occuper des bonobos, mais bravo à vous. Et si certains animaux deviennent interdits comme animaux domestiques, pour ceux qui en ont un aujourd'hui, comment feront-ils pour trouver leur nourriture à l'avenir, nous demande Cécile. Rachel.
Voilà, c'est aussi une grande interrogation. Parce que aujourd'hui, parce qu'il faut parler économie, c'est un énorme marché. Si demain, les animaux diminuent de moitié, on aura du mal à trouver des fabricants d'aliments de qualité. On aura du mal à trouver des fabricants de matériel de qualité. Et c'est nos animaux restants qui vont pâtir de ce manque de qualité. Il y a des choses qu'on ne trouvera plus parce que ça ne sera plus rentable pour les entreprises de le faire. Donc cette loi va induire une maltraitance, on va dire, sur nos animaux. Parce qu'on aura voulu légiférer quelque chose qui n'a pas besoin d'être légiféré dans l'état actuel.
Et pour le coup, Rachel, allez-y, oui. Pardonnez-moi, allez-y.
Non, si vous voulez, moi, ce que je voudrais vraiment vous faire comprendre, enfin, faire comprendre aux auditeurs, c'est qu'il est absolument, assurément obligatoire qu'une interdiction de détention de certaines espèces va amener du trafic et du marché noir.
C'est la question que j'allais vous poser.
Toujours, toujours des gens qui voudront en avoir, qui auront les moyens s'en acheter.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette loi, si elle n'est pas bien faite, hein, si elle n'est pas bien adaptée, augmentera de façon considérable le braconnage.
Exactement. Ça va être la première conséquence.
Quand va-t-on discuter de cette loi, là, Rachel, bientôt ?
Alors, cette loi est passée à l'Assemblée nationale ce soir. Donc, les députés l'ont validée. Elle doit passer le 18 au Sénat. Et si le Sénat l'approuve, elle devra ensuite être promulguée au journal officiel. Et c'est là qu'on essaye de faire comprendre que nous, les détenteurs d'animaux, on veut une modification de la législation. Parce qu'il y a des choses à faire pour que tous les animaux soient bien traités. Mais ce n'est pas en interdisant que ça va améliorer le sort des animaux. On doit prendre l'exemple sur des législations qui sont super bien faites.
Lesquelles, par exemple ?
Par exemple, la Suisse, qui, pour tous les animaux grégaires, donc que ce soit les oiseaux ou les chevaux, la loi vous interdit de les détenir seuls. Vous devez obligatoirement avoir un congénère. Vous devez avoir des volières de taille adaptée. Et tout ça est contrôlé systématiquement. Et nous, on ne demande que ça. Les associations d'éleveurs d'agrément, c'est-à-dire que c'est des éleveurs qui ne vivent pas de la vente de ces animaux, c'est vraiment un loisir, ne demandent que ça, qu'on remplace cette interdiction par de la formation, par de l'information, afin que les animaux soient le mieux possible. Actuellement, par exemple, chez les perroquets, on sait que les perroquets ont besoin de voler, donc il ne faut surtout pas leur tailler les ailes, comme certains le font, et qu'on peut se former au vol libre, et c'est-à-dire qu'on apprend à emmener son oiseau à l'extérieur et à le laisser voler en liberté. Si ces animaux étaient malheureux dans leur maison,
ils ne reviendraient
pas. Vous croyez qu'ils ne reviendraient ? Ben non, forcément que non.
Bien sûr. J'ai un dernier SMS qui doit être lu quand même parce qu'on parle de cette loi qui va embêter pas mal de gens au final.
Bien sûr.
Et les poules ont-elles droit d'être protégées ? Et les poussins écrasés vivants par millions ? Et les porcs qui naissent non viables ? Et les truies clouées au sol pour l'allaitement ? Les cochons à qui on coupe la queue ? C'est un autre débat, mais finalement, c'est vrai qu'on détourne le regard de la maltraitance de ces animaux-là, et pour le coup, une maltraitance évidente, mais à des fins, à des fins
économiques.
Et on va aller chercher des poux à tous ces amoureux des animaux. Bon. Bien évidemment, je le rappelle, on a bien évidemment cet échange avec Rachel ce soir, bien conscient qu'il y a des gens qui ne sont pas formés et qui peuvent détenir des animaux dans de mauvaises conditions.
Mais par manque d'informations.
Exactement.
Par manque d'informations et de formation. Pas parce que, je veux dire, quand vous achetez un oiseau qui a une certaine valeur marchande, vous n'allez pas aller le fracasser par plaisir. La maltraitance telle qu'on la voit chez les chiens et les chats, principalement, on ne la retrouve pas sur les reptiles, sur les perroquets, sur tous ces animaux-là ou sur les poissons. On ne la retrouve pas. La vague d'abandon qu'on a tous les ans sur les chiens et les chats, on ne la retrouve pas chez ces animaux non domestiques. Les refuges ne sont pas remplis d'oiseaux, de reptiles, de choses comme ça. Non, on n'abandonne pas son aquarium au milieu de la rue comme on le fait avec un chien et un chat.
Complètement. Écoutez, merci mille fois, Rachel.
Je voulais juste ajouter une toute dernière chose que j'ai appris tout à l'heure et qui me révolte. C'est-à-dire, pas plus tard qu'hier, donc le 15, M. Dombreval, qui porte cette loi, demande au préfet des Alpes-Maritimes l'autorisation qu'un particulier continue à détenir une jeune chevreuil qui a été trouvée soi-disant seule depuis le mois de juin, alors que la loi, normalement, quand vous trouvez un animal sauvage de nos contrées, vous oblige à le remettre à un centre de soins spécialisé qui va le soigner et le remettre en liberté. Ça n'a pas été fait. Depuis le mois de juin, ces gens ont conservé cet animal. Donc, il a, pour le coup, est vraiment un animal sauvage. Et monsieur Dombreval, qui intervient pour nous empêcher d'avoir des animaux des sauvages menés en captivité, demande un passe-droit pour que cette chevrette reste auprès d'un particulier. Donc, je pense qu'il y a un moment où...
Ça va à l'encontre totalement de ce qu'il prône,
voilà,
en tout cas.
Totalement. Ouais. Et la veille du jour où, où il présente sa loi. Donc, voilà. Voilà, voilà actuellement où on en est. Voilà. Donc, maintenant, la seule chose que les gens peuvent faire, s'il y a des gens qui sont d'accord avec nous, c'est qu'il y a des, il y a un hashtag qui s'appelle Touche pas à mon animal, donc pour montrer qu'on aime nos animaux, qu'on s'en occupe très bien, et on voudrait essayer de faire comprendre aux hommes politiques qu'on veut des changements, mais on ne veut pas l'interdiction, et que c'est une volonté, et qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table, qu'on écoute les scientifiques, qu'on écoute les gens qui sont formés, pour déterminer ce qui peut être fait pour améliorer le sort, mais de tous les animaux.
En tout cas, ce que je peux vous dire, Rachel, c'est que même si la loi passe, on n'est pas au bout. On n'est pas au bout, parce que ça, avant que tout ça soit en place, ça va être un sacré méli-mélo.
Exactement. Et puis, je pense que certains vont aussi y réfléchir au moment de glisser leur bulletin de vote ou des choses comme ça.
Mais il faut.
Ça doit être pris en compte. Les animalistes en tiennent compte quand ils votent. Eh bien, je pense que tous les éleveurs et détenteurs de NAC vont aussi prendre en compte ce que les candidats vont proposer à ce niveau-là aussi.
Très bien. Ben, merci mille fois, Rachel.
Non, c'est moi qui vous remercie de votre gentillesse, hein, d'avoir pris notre appel, parce que moi, je suis la porte-parole, mais on est des milliers derrière qui vraiment nous angoissons sur le devenir de centaines d'animaux.
Écoutez, on est bien évidemment, vous l'aurez compris, on entend totalement votre discours. Et comme dirait Tony Parker, ça va aller. Ne vous inquiétez pas.
On va faire.
On vous embrasse,
beaucoup.
Rachel.
Merci, au revoir, Olivier.